Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Double Slash. Alors cette fois, ce n'est pas un épisode de news, c'est un épisode où on va parler d'un outil, enfin de plusieurs outils éventuellement. Voilà, un retour d'expérience d'Alex. Et voilà, c'est très important parce que même si aujourd'hui on a l'IA, hein, on code tous un petit peu avec l'IA, tout ça, plus que jamais, eh ben, il faut savoir faire les bons choix d'outils, les bons choix d'architecture, les bons choix de méthodes, etc. Donc la connaissance du développeur est super importante et du coup, le podcast est super important. Donc merci d'écouter. Merci aussi aux sponsors de nous sponsoriser tous les mois. Et puis, bah, du coup, comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex.
Salut Patrick, salut tout le monde. Et tu fais bien de bien assister, parce que, d'insister sur le fait que, ouais, on voit popper plein de librairies, on voit popper plein de nouvelles apps, plus ou moins gratuites, parfois payantes, parfois open source, parfois fermées, tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus d'outils. Il est difficile de faire le tri là-dedans, de savoir qu'est-ce qui est pérenne, qu'est-ce qui va tenir dans le temps. Est-ce que c'est un one poc qui a été fait un peu en une journée ou allez une semaine avec Claude Code, ils ont cramé tous les tokens et puis derrière ça va pas bouger. Très 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 difficile de faire de trouver en fait le juste milieu. Toujours est-il qu'aujourd'hui on va parler de workflow.
Workflow, ouais. Qu'est-ce que c'est Workflow?
Alors, Workflow, en fait, ça a été initié par Vercel à l'origine. Mmh. Tout simplement, en fait, c'est une librairie de gestion de tâches asynchrone. Waouh! Alors, une fois qu'on a dit ça, on a dit, ouais, c'est un peu compliqué. Mais l'idée, ça va être de pouvoir exécuter des tâches, des fonctions, en fait. On va pouvoir les stopper. On va pouvoir les reprendre, soit de manière automatique, soit on va pouvoir les relancer à partir d'un trigger, à partir d'une date ou d'un webhook, d'une action humaine, on va dire. Et là, la fonction, en fait, va reprendre. On va pouvoir la rejouer s'il y a eu une erreur, combien de fois, combien de... Voilà, donc il y a un système de retry. Il y a aussi une fonction d'observation. On va pouvoir observer en fait si toute la gestion de ces tâches s'est bien déroulée. Et tout ça, en fait, en gardant le contexte et le plus important, en fait, sans développer une architecture de juste ma boule. Parce que tu vas me dire, ouais, Alex, t'es bien gentil, mais en fait, un système de queue, ça existe déjà. Je peux faire des retry. Tes systèmes où j'attends...
Laisse-moi le dire. Alors Alex, t'es bien gentil, mais moi, j'ai des queues sur mon système et ça va très bien. Bon, alors évidemment, quand j'ai une queue qui plante ou que Redis marche plus ou que l'appel que j'ai fait à un service a planté, bah, du coup, ça marche plus. Donc, la personne va pas recevoir son mail de notification, de commande, etc. Mais bon, dans la plupart du temps, ça marche, quoi, tu vois. Alors, pourquoi je vais utiliser Workflow?
Exactement. En fait, dans la majorité du temps, ça marche. Sauf que plus tu viens mettre des étapes, plus tu viens mettre des queues et plus, en fait, ton système d'architecture commence à être super, super, super compliqué. Ouais. Et en fait, à administrer, ça commence à être quand même complexe. Et l'idée de Workflow, en fait, c'est de venir créer un univers, on verra, qui s'appelle un world, et en fait, pour venir extraire toute cette complexité et cette architecture, en fait. On verra ça, en fait, tout à l'heure, quand on ira vraiment plonger dans la technique, comment ça marche, comment ils ont implémenté ça. Et on verra que, en fait, ça fait beaucoup de choses un peu magiques pour nous, développeurs. Mais en tout cas, ça nous facilite la vie. Et surtout, c'est hyper simple à mettre en place et c'est hyper facile à utiliser et surtout à relire, en fait. On voit bien que bah, c'est tâche 1, tâche 2, tâche 3, tâche 4 et comme ça, en fait, on déroule étape par étape et c'est vraiment très, très bien écrit et c'est facile à lire, facile à implémenter. Et c'est en ça où moi, j'ai fait la migration sur un site de prod et l'expérience est vraiment classe.
De suite, on va en parler. Est-ce que c'est lié à... Parce que là, je vois que c'est sur le site de Vercel. Est-ce que c'est lié à Vercel? Est-ce que je peux l'utiliser que sur Vercel ou est-ce que je peux l'utiliser en dehors de Vercel? Est-ce que c'est... Voilà.
Ouais. C'est... Alors, comment ça marche? Comme c'est en fait, c'est un écosystème où à l'intérieur, en fait, il y a un runtime et un système de queue et un système de persistance, en fait, il faut qu'il y ait un environnement, un world. Et donc, ce world-là, en fait, tu peux le mettre soit sur Vercel, soit en self-hosté.
Donc ça marche partout.
Okay. Et donc, ça marche partout. On n'est pas obligé d'utiliser Vercel pour faire du workflow. Personnellement, sur le site de production que j'ai utilisé, je suis sur un bar métal avec une DB dédiée, un Postgre. J'ai instancié mon Word sur mon bar métal dans mon application et j'ai connecté à ma DB Postgre. Et là, en fait, ça fonctionne. Donc, je suis totalement agnostique. Enfin, je suis totalement décorrélé de Vercel. Je ne suis pas obligé d'utiliser Workflow sur Vercel. On est sorti de ce système un peu à la Next, où en fait on était un peu bloqué de, on était obligé d'utiliser Vercel si on voulait utiliser Next. Là, pour le coup, c'est pas du tout le cas.
Ouais, non, mais c'était voilà. Alors, toutes les personnes auditeurs, tous les auditeurs qui n'aiment pas Vercel, vous pouvez rester parce que vous allez pouvoir l'utiliser en dehors de Vercel. Mais après, des fois, c'est justifié. Des fois, voilà, il y a des choses qui sont justifiées que ça soit utilisable que sur Vercel parce que voilà, ils utilisent des technos vraiment spécifiques pour le serveur, tout ça, et c'est compliqué de le mettre sur un autre serveur. Mais bon, voilà, c'est là pour le coup. En plus, c'est open source, d'après ce que je comprends.
Full open source, alors, je ne sais pas si c'est full open source, mais en tout cas, c'est utilisable partout, ça c'est sûr. Je n'ai pas regardé la licence derrière cette librairie.
C'est sur la partie OSS de Vercel, enfin, donc je pense que tous les outils open source, à mon avis. Mais, puis le fait que tu le self-host, ça veut certainement dire qu'il y a une licence MIT ou un truc comme ça.
Yes, à regarder.
À vérifier, ouais.
Par contre, petit stop pour les développeurs, on va dire PHP, ou alors peut-être qu'il existe quelque chose d'autre dans cet écosystème. Aujourd'hui, c'est vraiment une librairie qui est orientée JavaScript, même si ils ont sorti une version en Python qui est en bêta. Néanmoins, ça reste initialement majoritairement pour du JavaScript. Je ne sais pas s'il y a d'autres langages qui sont prévus. Toujours est-il que c'est Full.js accessible et en bêta pour les personnes qui font du Python.
Ouais. Bah, Python, on imagine que c'est pour tout ce qui est IA, certainement.
Évidemment. Évidemment.
Voilà. JS, c'est pas très gênant. Enfin, JSTS, c'est pas très gênant. Parce que est-ce que quand tu l'utilises, bon, on va en parler après, mais est-ce que quand tu l'utilises, tu as des sortes de routes que tu peux appeler pour lancer un workflow, des trucs comme ça ou...
Exactement. Donc,
pas gênant. Si tu es sur un projet PHP, tu peux très bien appeler des routes sur un serveur workflow et puis voilà. Quoi.
Exactement. Tu peux gérer ton microservice de workflow qu'avec JS, pourquoi pas. Oui, tu pourrais faire ça. Compatibilité maximum, en tout cas très, très, très large sur tout l'écosystème JS, justement, où en fait, ils ont intégré de manière native quasiment tous les frameworks qu'on connaît, hein, Next, Vite, Astro, Nuxt, Svelte, Nest, TenStack, Ono, Nitro, Fastify, enfin voilà, il y a tout. On peut même faire du Express. Bon, faites pas du Express.
On ne juge pas.
On ne juge pas. Pas de mauvaise langue sur ce podcast. Mais dans l'idée, en fait, c'est quand même une grosse compatibilité. Et comme je le disais, c'est assez facile à installer. On voit, en fait, c'est un package qui s'appelle Workflow, assez simple. Et pour les grosses feignasses qui ne veulent même pas installer, vous pouvez même utiliser le Skills. Le Skills de votre agent le fera. Néanmoins, utiliser et installer le Skills amène quand même une certaine rigueur en fait sur les us et coutumes. Et en fait, comme ça, si vous êtes amené à utiliser un agent pour venir faire des modifications dans vos workflows, en fait, tout simplement, toutes les conventions seront respectées. Donc, c'est pas débile, en fait, d'installer le Skills Workflow. Comme ça, vous êtes sûr de respecter les best practices et vous avez un lien direct avec la doc. Beaucoup mieux, beaucoup plus facile à mettre en place.
Ce qui est cool quand même, c'est de faire un peu un mix des deux, quoi. En tout cas, au début, quand tu découvres la librairie, c'est de l'installer soi-même, mettre le skills pour, voilà, si tu es un peu coincé, tout ça, aider avec l'IA. Mais ce qui est bien quand même, c'est de le faire un peu manuellement, lire la doc, essayer de voir comment ça fonctionne pour comprendre quand même un minimum le fonctionnement du truc. Parce que sinon, dès que tu seras bloqué, tu vas rien comprendre, quoi.
Exactement. Et après, c'est comme tout. On peut aussi utiliser les agents pour. On lui pose des questions. Expliquer.
Ouais.
Exactement. Et en fait, on lui pose des questions, il nous répond, il nous explique, et on n'est pas en mode agent, on est en mode chat. Et vraiment, en fait, on pose des questions. Explique-moi et concentre-moi, rédige-moi. Enfin voilà, on peut vraiment voir l'agent en tout cas comme un teacher, un prof quoi, et pour nous enseigner cette librairie. Donc ça c'est plutôt facile à installer et à échanger. Après, il y a trois concepts qui sont hyper importants. C'est le concept de c'est très inspiré de React, mais use workflow. Tout simplement, on va lui dire que cette fonction première, c'est un workflow. Donc un workflow, c'est une succession de tâches qui doivent être séquencées, c'est-à-dire exécutées dans l'ordre. On doit garantir que la première tâche est terminée avant de passer à la deuxième. Et ainsi de suite. Et donc, on va dire la fonction primaire, c'est là où on va déclencher le workflow, donc la succession de tâches. Tout simplement, on va l'instancier avec use workflow terminé.
On ne voit plus l'écran, je ne sais pas si tu voulais faire voir sur l'écran.
Ouais, carrément.
voilà,
on va en fait instancier juste use workflow. Et ça, en fait, ça va nous suffire en fait, à initier le workflow et tout le runtime, le retry, l'observabilité, en fait, toutes les fonctions de temporisation, si on veut. Ouais.
En gros, si je comprends bien le concept comme ça, vite fait, c'est dès que tu mets use workflow, toutes les fonctions asynchrones qui suivent sont quelque part extraites et donc traitées indépendamment dans ton truc, en fait.
Exactement, c'est exactement ça. Et donc ça, c'est pour le déclenchement du séquençage des fonctions. Et après, on a le niveau en dessous, qui sont en fait les steps, qui vont être en fait les étapes du workflow. Donc en fait, un workflow est constitué de plusieurs étapes qu'on appelle des steps. Donc, step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Et de la même manière, dans l'exécution dans notre fonction de notre step 1, qui va, par exemple, pourrait être envoyer un email de bienvenue, on va mettre use step. Donc, de la même manière qu'on a fait use workflow, on fait use step. Et là, en fait, on a soit le séquençage, la liste de tâches, et la tâche à exécuter. C'est les deux briques, c'est vraiment ça.
Le step est obligatoire dans la fonction asynchrone ou pas ? Style send welcome email ?
Oui.
Si je ne mets pas le use step, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas ?
Non, ça ne fonctionne pas. En fait,
donc le use step est obligatoire. Ouais.
Oui, le use step est obligatoire pour bénéficier en fait, de tout cet écosystème que Workflow nous a donné, c'est-à-dire une pause, par exemple. On verra tout à l'heure qu'on peut utiliser des systèmes de sleep où en fait tu peux te dire tu attends pendant, je sais pas, 2, 3 jours, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Et donc si tu n'utilises pas et si tu ne mets pas explicitement le use step, alors en fait cette fonction sera juste exécutée de manière native dans ton runtime de ton applicatif, mais tu ne vas pas bénéficier de tout l'écosystème de workflow, d'observabilité, de retry, de tempo, de tout ça. Ouais.
D'accord, okay.
Donc c'est vraiment obligatoire.
Le sleep, c'est juste super puissant, quoi. Quand tu vois juste mettre un sleep 7 days, 7 days, et du coup, automatiquement, tu as un autre email qui part 7 jours après, ça c'est dingue. Question là-dessus, mon serveur s'arrête, ça plante, machin, tout ça. Est-ce que le sleep sera quand même effectué et je relance mon serveur. Est-ce que le sleep sera quand même effectué 7 jours plus tard? C'est en base de données, en fait.
Exactement, exactement.
D'accord.
Et on verra ça tout à l'heure quand on passera directement dans le fonctionnement. Mais pour faire ta réponse courte, oui, c'est en base de données.
D'accord.
Donc en fait, même si ta machine elle plante, normalement tu vas pas rester, ta machine va pas s'éteindre pendant 4 jours normalement. Donc au moment où tu vas la redémarrer, si tu veux, et c'est là où en fait ça amène de la puissance, c'est que ça vient garder ton contexte. Tu vois, et en fait, on parlait de contexte tout à l'heure, mais c'est là où c'est super puissant parce qu'il est pérenne, il est durable. Et ça, en fait, ça amène super de valeur. Parce que si tu veux faire ça, on va dire à la main, à l'ancienne, sans workflow, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire une tâche, mais tu vas faire ta fonction et tu vas programmer un chrone et tu lui dis bah ok, donc toutes les minutes tu regardes si je dois lancer la fonction, tout, enfin c'est l'enfer à mettre en place. Si tu en as un ou deux, bah, ça va, c'est jouable, c'est possible. Mais si tu commences à en avoir beaucoup, tu vois, tu as le système pour les emails, le système pour les paniers abandonnés, les systèmes. Et là, ça vient complexifier tout. Tu as des crônes qui tournent dans tous les sens, qui déclenchent des tâches. Vu que tu as voulu faire les choses bien, tu t'es dit, bah non, en fait, on va mettre des queues parce que comme ça, je peux gérer la charge de travail. Et là, en fait, à la mise en place, waouh, bien,
ouais.
Méga solide, quoi, méga solide. Donc là, quand tu vois le simple use workflow sleep, 7 jours, terminé. Donc, c'est-à-dire que cette fonction, en fait, elle va s'arrêter pendant 7 jours jusqu'à temps que la date soit 7 jours avant le début de la fonction et ça va continuer 7 jours après. Juste ça, en écriture, c'est facile à lire, c'est facile à comprendre. Waouh, c'est... Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh. Sur le papier, ça a l'air cool. Est-ce que ça marche déjà? Et surtout, est-ce que ça fait vraiment... Est-ce que c'est aussi magique que ça? Ça l'est.
Ouais, en fait, là, le truc, c'est que c'est du code classique, en fait. C'est juste que tu rajoutes quelques mots-clés et du coup, ça te transforme le truc, quoi.
Exactement.
Tu gardes tes habitudes, ta façon d'écrire, tout ça, tes connaissances d'écriture, de code et tout ça, et juste avec quelques mots-clés, ça, tu fais des workflows.
Et toute l'abstraction et la complexité d'architecture, de séquençage, de temporalité, tout ça est abstrait, total. Et c'est là où ça fait un peu le truc, un peu côté magique, quoi, tu vois.
Ouais.
Donc, c'est cool. Pourquoi ça marche? Pourquoi on pourrait mettre ça dans la vraie vie? Tu vois, un cas concret, clairement, pour les agents, clairement. Hein.
Ah oui, oui. Pour l'IA, c'est super adapté, ouais. C'est clair.
Tu vois, genre, je scrape le site, je fais un résumé de la page, je le convertis en Markdown, je l'envoie à mon Notion. Bon, bah voilà, là, j'ai un workflow d'agent hyper séquencé qui marche bien. Et si, pour X raison le site que j'ai demandé de scrap est down, et bah, en fait, il va retry jusqu'à temps que... Et ça, c'est juste super facile et juste trop bien, quoi. Avec cette fonction de retry en cas d'échec, en fait, on peut venir mettre des règles de dire ok, bah tu vas retry pendant 30 secondes, après tu vas retry dans 2 jours, tu vas retry dans 2 heures, dans ce que tu veux. En fait, tu as une granulométrie de stratégie de retry, tu vois. C'est ok, tu vas pouvoir relancer selon la stratégie que toi tu as à définir. Donc ça c'est juste c'est vraiment cool, quoi. On en a parlé tout à l'heure du sleep, tu vois, mais normalement, et en plus, là où on n'a pas fait attention, mais c'est écrit en langage humain, tu vois, c'est pas le 20, tu veux envoyer un message dans 5 jours, donc c'est 5 multiplié par 24, multiplié par 360, tu vois, multiplié par 60, enfin, t'es là, c'est illisible. Et là, pour le coup, bah non, 5 jours. C'est écrit en humain, c'est interprété automatiquement. Waouh. Mm. Et ça, en fait, c'est vachement bien pour des autorépondeurs, par exemple, pour des scénarios email marketing, pour des commandes de panier abandonnées, des choses comme ça. Bah, c'est super, super intéressant à mettre en place. Donc ça, c'est cool. C'est aussi pas mal pour tout ce qui est multi-queue. On l'a dit tout à l'heure, mais si on a du travail assez dur à mettre en place, par exemple du processing de vidéo, du processing d'image, en fait, le fait d'initier la fonction avec un système comme ça, ton runtime, en fait, il peut être par terre, t'as pas cassé toute ton exécution, quoi. Tu vois, c'est chaque step de ton workflow est isolé dans son runtime. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'il va pouvoir être joué différemment et quand il en a besoin, quoi.
Ouais. Non, c'est pas nickel.
Et évidemment, bah, vu qu'on joue avec des LLM assez facilement devenus un standard qui est présent depuis très très longtemps et revenu à la mode, c'est le stream. Donc tu peux facilement, et en tout cas ça gère de manière native les streams. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et dernier point aussi, c'est que tous ces steps, en fait, peuvent être mis en parallèle. Et donc, en fait, tu peux aussi paralléliser des actions avec une simple séquençage légèrement différemment. Ou à l'inverse, en fait, soit en séquençage, soit au plus rapide, quoi. Donc ça, en fait, c'est natif et on n'a pas besoin de développer toute une ingénierie à côté. C'est out of the box, quoi.
Ouais, en fait, c'est le code classique, quoi. C'est du code qu'on connaît, quoi. Il n'y a pas de truc magique, enfin, il n'y a pas de fonction magique, tout ça. C'est juste du code classique.
Ouais.
C'est ça qui est pas mal, en fait.
Exactement. Et en fait, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure de le système de Word, en fait. Nous, en fait, on va se concentrer sur notre logique métier, sur notre boulot de développeur. Par contre, toute l'architecture, la mise en place, en fait, de ce système-là, si on devait le faire à la main, je pense au queue ou à des events genre Kafka, Broker ou des choses comme ou des NATs ou des voilà c'est des technologies de messages avec des events où tu vas pouvoir faire du retry, tu gardes la pérennité. C'est assez lourd à mettre en place en termes d'infrastructure. Là, en fait, on peut vraiment sortir d'abstraction de ça et de se concentrer que sur la logique métier. Et pour ça, en fait, il faut mettre en place ce qu'ils appellent un world. Donc, c'est un monde qui est dans lequel, en fait, il y a toute l'abstraction. C'est important de le comprendre. Il y a le runtime, les queues et la persistance. Et la persistance, en fait, elle va se faire à travers une base de données. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la base de données, elle peut être soit chez Vercel, soit en fait en self-hosted sur du Postgre, du Azure, du Cloudflare, du MySQL, du Upstage. Enfin voilà, objectivement, vous avez toutes les DB possibles aujourd'hui sont compatibles.
Donc là, quand on voit Postgre, c'est quoi? C'est un module que tu rajoutes sur Postgre ou c'est un package? C'est comment ça marche?
Non.
C'est un package encore que tu rajoutes pour... explique-nous. Ouais.
Ok. Alors, en fait, quand tu vas l'installer, en fait, ça va brancher, en fait, tu vas instancier ton world au démarrage de ton application. Ce qui fait qu'il y a ce world qui est accessible partout dans ton application. Donc, tu vas pouvoir, en fait, l'appeler à n'importe quel moment et de lui dire, OK, cette fonction-là, elle va faire partie d'un workflow. Et donc, s'il y a du workflow, ça va aller dans le world. Et au moment où tu vas créer ce world, où tu vas instancier ton world, la première fois que tu vas l'instancier, ça va te lancer des migrations dans ta base de données et ça va créer des tables, des fonctions, des triggers, pour le coup, en Postgre. Donc, tu vas avoir plein de tables de workflow, d'event, de step, de trace, de retry, de voilà, t'as plein de tables qui sont ajoutées et tu vas aussi avoir des triggers qui sont déclenchés et des fonctions qui vont lancer des actions. Tout ça, en fait, t'as pas besoin d'aller plonger dedans. C'est super intéressant pour ta culture générale d'aller voir en fait comment ça fonctionne. Ouais. Mais toi, en tant que développeur, t'as pas besoin de plonger. Après, moi, je suis un peu curieux. Je voulais quand même voir comment c'était fait pour comprendre le truc. Mais si tu veux, tu seras obligé de mettre ton URL de base de données au moment de l'instanciation de ton world. Donc, il lui faut une base de données parce que, en fait, le côté persistance vient avec une base de données.
OK. Donc, pour l'instant, j'ajoute le package workflow en front, j'ajoute ce package world en fonction de la base de données que j'ai. Ouais. Et c'est tout ce que j'ai à faire pour l'instant.
Exactement. Exactement. Okay.
C'est facile.
Ah ouais, c'est super facile.
Je m'attendais à un truc plus compliqué.
Non, c'est aussi facile. Par contre, moi, tu vois, j'ai mis des toutes petites... Mais bon, ça, c'est des best practices que tout le monde doit avoir. C'est au moment où je démarre mon application Nuxt, parce que tout le monde sait que je fais que du Nuxt. En fait, au moment où je démarre mon application, je vérifie que mon world est bien disponible. Parce que dans mon application et dans mon application Nitro aussi, sur mon serveur back-end, en fait, je veux bien vérifier que mon world est disponible parce que sinon, en fait, tous mes workflows en fait, ne seront pas exécutés parce que mon world n'est pas disponible. Donc, il faut bien faire attention. Mais bon,
ne pas être disponible en fait.
Pour X raisons, par exemple, la base de données est par terre et donc en fait au moment de l'instanciation de l'application, je veux créer mon world, mais en fait j'ai pas la connexion à la DB. Donc je peux pas créer mon world parce que j'ai pas la connexion à la DB. Donc là en fait elle démarre pas et elle me dit erreur. Et donc j'ai un petit message d'erreur qui me dit je crois que ton world n'a pas la base de données, t'es sûr que ton URL elle est bonne, et voilà, c'est juste pour vérifier en fait que il ping et il est là quoi, tu vois. Et donc tu vois, c'est quand même assez simple à mettre en place, mais si tu veux faire abstraction...
Pour l'instant, c'est pas grand-chose à faire.
Si tu veux faire abstraction de ça, t'as même pas besoin de faire ça. Si tu utilises Vercel, tu fais use workflow, c'est tout. T'as rien à instancier.
Vercel, parce que Vercel, du coup, t'as pas besoin de brancher la base. Non, si, t'as quand même besoin de mettre le package.
Oui, workflow, tu mets le package, mais en fait, toute la base de données, elle est abstracte chez eux. Tu vois.
Oui, tu gères pas la base, mais par contre, tu mets le package quand même. Ouais. Okay.
Par contre, il y a un autre truc qui est important, c'est que toi, tu vas avoir besoin de faire du dev local et donc d'expérimenter. Enfin, souvent, c'est quand même les best practices, c'est d'abord développer en local. Hashtag, on voit des mecs qui poussent tout en prod, qui font du debug en prod en live. Mais tu vas avoir un package en fait workflow local, et en fait quand tu installes ton workflow, en fait nativement il est instancié déjà en local. Donc ça marche. Par contre, attention, si tu utilises ton workflow avec Postgre, en fait moi je te conseille de brancher ta DB de local, de dev en fait, sur ta configuration en local. Parce que sinon, en fait, tu vas avoir une config pour la prod et une config pour le local. Et ça, moi, je ne suis pas super fan. Je préfère avoir la même typologie de config. Je mets juste une URL de DB différente. Mais au moins, mon fichier de config, c'est le même pour le local et pour le dev. Après, ça, c'est que mon expérience. Et après, vous faites comme vous voulez, les gars. On est bien d'accord. Mais je considère que c'est quand même mieux d'avoir le même fichier de config, quoi.
Ouais. Bah après, j'imagine que tout fonctionne pareil. Si tu prends du MySQL ou du Postgres, j'imagine que en tant qu'utilisateur, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence majeure.
Ouais. Alors, tu peux utiliser aussi du Redis, en fait. Et là, pour le coup, le fonctionnement du world est un petit peu différent parce que la nature de la base est différente. Donc, le système est un peu différent. Ils utilisent des pub-sub, ils utilisent des listes et des streams et tout ça. Mais objectivement, une fois de plus, toi, tu t'en fous, tu te mets derrière, tu vérifies que ton world, il est bien instancié, qu'il y a la bonne DB. Et après, tu vas explorer ta DB pour voir ce qui a été installé. Tu t'en fous, en fait. Donc, c'est totalement agnostique de la base de données. Et tu peux l'instancier où tu veux. Et ça, c'est magique, quoi. Enfin, vraiment, c'est vraiment.
Ouais, c'est pas mal. Bah, c'est vrai, parce que certains hébergements, enfin, tu peux te limiter par l'hébergement. Tu peux avoir que du MySQL, par exemple. Des fois, tu n'as pas de Postgres. Et du coup, le fait que ça marche pareil avec n'importe quelle base, c'est pas mal, quoi, franchement.
Ah ben ouais. Et pour le coup, tu bénéficies en fait de tout cet écosystème de World, en fait. Et donc ça, c'est plutôt cool. Doc, évidemment, est super bien faite. Il y a vraiment beaucoup d'exemples. Beaucoup de projets finaux qui sont implémentés, mais la doc en fait donne beaucoup 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 d'exemples, et donc en fait on comprend tout de suite comment je vais instancier mon workflow, comment je vais pouvoir gérer toutes mes erreurs. Et il y a un truc qui je trouvais super intéressant, justement, c'est le système de hook ou de webhook, c'est-à-dire j'ai un process, mais peut-être que dans ce process, soit il est en full automatique, soit dans ce process, il y a une action humaine à mettre en place, c'est-à-dire l'utilisateur doit valider, doit approuver, je dois attendre le retour d'une API tiers, que sais-je, mais en tout cas, il y a une action qui doit être mise en place. Et bien en fait, le process, donc le workflow, va s'arrêter tant que tu ne lui as pas explicitement dit de reprendre. Et ce système-là, en fait, va être fait via des hooks ou des web hooks. Donc là, c'est câblé hook, c'est ton système à toi, et webhook potentiellement ça va être quelqu'un de l'extérieur, un service tiers, et c'est là où tu dis ouais, là ça commence à être super intéressant. Donc en fait tu viens créer en fait ton workflow, et tu vas réutiliser, tu vas resume, c'est-à-dire ok, tu le relances, tu viens continuer via une action extérieure. Et ça, en fait, ça, c'est hyper, hyper, hyper puissant. Pour le use case, la commande est considérée comme prête. Et donc, il y a toute une succession d'étapes. Sauf que, en fait, il faut que l'utilisateur tape son code de retrait pour récupérer sa commande. Et donc, quand l'opérateur, en fait, tape ce code de retrait, c'est un webhook qui dit que c'est bon, on peut continuer le process de remise, de changement de stock, de création de facture, d'envoi d'email et tout ça, quoi. Donc ce système là au lieu de faire des trucs un peu complexes, là tout est natif dans le workflow, quoi.
C'est pas mal. Et on n'a pas parlé, je crois, de... Il me semble qu'il y a un petit peu d'observability ou des trucs comme ça, non, des logs ou je sais pas quoi. Non.
Exactement.
En fait, t'es sûr en plus.
Exactement. Et en fait, tu vas avoir des logs qui vont être instanciés. Alors après, ces logs, soit tu vas les pousser, soit tu les laisses sur ta machine, soit tu les pousses sur d'autres services. Voilà, ça c'est toi qui vois. Mais tu vas pouvoir en fait monitorer un peu ça. Mais il y a aussi en fait un écosystème en fait qui vient avec. Quand tu viens instancier ton Word, en fait, ça te crée une micro-application avec une adresse dédiée, avec un port dédié, que après toi tu peux sécuriser comme tu veux, mais où tu vois en fait toutes tes. Alors là, la doc n'est pas du tout mise à jour. Là, c'est un peu dégueulasse quand on voit ça, mais l'image en tout cas est bien plus fonctionnelle. Et en fait, tu vois le workflow, le step, l'ID du step, parce que chaque step est unique. Et donc, l'exécution, tu vois tout et potentiellement, tu vois aussi toutes les erreurs. Et c'est là où c'est super intéressant, c'est que tu vois visuellement, en fait, combien de temps ça a mis, tu as toutes les statistiques. Et donc, en fait, tu peux voir directement tes workflows et voir où est-ce que ça a cuté.
Ok, pas mal.
Après, si on veut mettre un truc en prod de manière un peu plus solide, en fait, avec tes logs et ta gestion des erreurs, soit tu as un retry, soit à la fin, en fait, tu viens mettre une notification sur ton système d'erreur, quoi. Tu vois, pour que toi, en fait, tu sois notifié et que ça apparaisse quelque part en mode mec, il y a un step qui est pas bon. Et l'avantage, c'est que vu que toutes les infos sont enregistrées, en fait, tu vas pouvoir redéclencher manuellement le step en question. Et ça, c'est super intéressant parce que sinon, tu vas être obligé d'aller remonter dans les logs. OK, à tel jour, telle heure, telle fonction, tel utilisateur n'a pas reçu son email. Là, en fait, on voit tout de suite que c'est celui-ci qu'à côté. Et donc, on va traiter celui-ci. Et donc, c'est beaucoup plus simple, en fait, pour targeter les erreurs et pour spotter, en fait, les erreurs.
Sur la version... Enfin, lui, là, est-ce que tu peux... si tu as une erreur, un truc qui s'est arrêté ou quoi, tu peux relancer ou quoi ? Est-ce que tu as un bouton play ou...
Exactement. Non, en fait, tu as un bouton rerun.
Ah ouais, carrément.
Rerun. Okay, ouais. Sauf qu'en fait, avant de rerun, il faut savoir...
C'est à corriger l'erreur. Parce
que... Exactement. En fait, il faut que tu saches pourquoi ça a cuté. Est-ce que parce que le service était down, pareil, ton service extérieur était down, ou le problème était chez toi parce qu'il y a une erreur qui s'est introduite quelque part. Mais toujours est-il que oui, tu peux, en fait, tu as un bouton rerun pour relancer ce step-là. D'accord. Quoi. C'est cool, hein?
Ok.
C'est pas mal. En fait, si ce step est par terre, tous les prochains steps vont se dérouler de manière classique, si tu veux. Donc, toi, tu n'interviens que sur ce step.
Ouais.
Tu vois?
Ça, tu l'as en. Ouais, donc, ça, c'est self-hosté, tu l'as, cette page, tout ça. Enfin, voilà. Et Vercel, j'imagine que c'est d'office.
Ouais, alors, en fait, dans.
Le petit dashboard.
Exactement. En fait, depuis le dashboard dans Vercel, en fait, depuis le dashboard, t'as un visuel global sur toutes ces tables, sous couvert que tu as instancié un use workflow dans ton application et que t'as des steps et que tu en as déjà qui sont en cours. Sinon, tu le verras pas, en fait. Tant que le premier n'a pas été initié, tu le verras pas. Mais pour faire des micro-tests, Vercel, c'est pas mal, quoi, parce qu'on n'a pas besoin de payer. On peut instancier, on peut voir comment ça fonctionne en prod. Et puis après, une fois qu'on est un peu plus solide ou on a pour projet, en fait, de déplacer ça sur quelque chose en prod, bon, là, on passe en mode world. Mais on a déjà la mécanique, on a déjà la structure, on a compris le concept, quoi. Donc, c'est un bon outil, quoi.
OK. Bah, c'est pas mal, hein. Écoute, je m'attendais à un truc plus compliqué. Donc, je suis un peu déçu, mais c'est tellement facile, en fait, à mettre en place.
Que... Bien sûr.
Ouais, en fait, c'est fou, quoi.
Et en fait, moi, là où j'ai été bercé, en tout cas séduit, c'est par la promesse où, en fait, quand je vois ça, je leur dis, mais, enfin, je me dis, mais waouh, c'est ouf. Ça me paraît tellement simple. Ils ont réussi à mettre en niveau d'abstraction tellement de choses, tellement de choses que putain, ça doit être une usine à gaz à configurer. Mais en fait, non, quoi. Mais pas du tout, quoi. Et c'est là où c'est ouf, c'est que c'est hyper simple à mettre en place, même en self-hosté. Alors, c'est plus compliqué, on est bien d'accord, mais c'est pas non plus rocket science.
Oh, ça va.
Vraiment, c'est beaucoup plus. Enfin, c'est pas compliqué, quoi. C'est un petit peu plus compliqué que Vercel, pour le coup, mais parce que là, il n'y a rien à faire. Mais pour le coup, le bénéfice, en fait, qu'on a d'utiliser ce séquençage d'action, ce retry, tout ce que ça amène sur la table par rapport au changement de manière de faire et la difficulté de la mise en place, pour moi le gain en fait était tellement énorme que je dis ok, là il faut vraiment tester, il faut essayer ça, et ça marche vraiment bien et je suis super content d'avoir mis ça en place, vraiment.
Tu m'étonnes.
Faut tester, les gars, faut tester. Tester sur des micro projets, juste un répondeur, ouais. Tu vois, un auto-répondeur, genre tu m'envoies un email dans 2 minutes, tu m'envoies un email dans 3 minutes, tu m'envoies un email dans 5 minutes, et tu m'envoies un email que quand je te ping une fois sur Endpoint qui joue le rôle de webhook, et tu m'envoies le mail final. Juste ça, en fait, ça prend, allez, 2 heures à tout péter, et vous avez compris tout le concept, en fait, du world, vous l'avez déployé, vous l'avez mis en place, et derrière, en fait, ça vous ouvre plein de possibilités à mettre en place dans des scénarios un petit peu plus complexes, mais au moins, vous avez extrait l'essence même de cette librairie workflow. Et il y a tellement de choses à faire que c'est juste ouf. C'est juste ouf.
Excellent. Excellent. Bah, du coup, on va pouvoir faire un workflow pour publier les épisodes du podcast.
Exactement. Mais tu sais, Patrick, que le framework en fait, agentique de Vercel, Eve, en fait, ouais, utilise workflow en background, parce que en fait c'est une brique de tout l'écosystème du framework pour agent, mais en fait toute la logique de séquençage des actions, de retry, d'observabilité, en fait est assurée par workflow, quoi. Donc c'est une grosse pièce, bah, en tout cas c'est la grosse pierre.
Ouais, bah, c'est logique de toute façon, parce que Eve fait des appels LLM, etc. Et du coup, tu es obligé d'attendre la réponse ou des erreurs ou n'importe quoi. Et ça se marie parfaitement avec ça, quoi.
Donc, exactement.
C'est logique. Mais du coup, ça veut dire que Eve est compatible en self-hosté avec workflow en self-hosté. Ça, c'est cool.
Et tu viens de tout comprendre. Exactement.
Voilà.
Exactement.
On a répondu à la question de l'autre épisode.
Donc, okay, donc ouais. Non, c'est cool. C'est cool.
C'est bon, on a fait le tour.
Je pense qu'on a tout vu. On mettra évidemment tous les liens de la doc, des exemples, de l'écosystème World, si vous voulez faire ça en self-hosté. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode. Comme d'habitude, ouais, vous connaissez la chanson, hein, un petit pouce, un petit like, un petit partage.
Abonnez-vous.
Évidemment, évidemment. Un grand merci aux sponsors et à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et nous, on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.
Ciao, à plus.